Audrey Pinchot, salut!
Bon matin!
As-tu passé un beau week-end?
Oui, un week-end assez rempli quand même. Là.
Ben oui, je voyais ça, ton Instagram. Ça... là. C'est vrai, t'avais l'air occupée. Là.
Ben, j'ai vu plein d'amis. C'est ce genre de... Je suis dans cette période de vie-là où... T'as des amis qui ont des enfants depuis déjà longtemps.
Oui.
T'as des amis qui tombent enceintes.
Oui.
Il y a des showers à gauche puis à droite.
C'est ça,
puis des
c'est...
événements. Il y a du monde qui recommence à zéro.
C'est ça, je voyais sur Instagram. Là. C'était un shower. Là.
Oui, c'était un shower en fin de semaine. Puis c'est comme mon deuxième cette année et il y en a d'autres qui s'en viennent.
Bon.
Fait que je te dis, c'est le party cette année.
Pas rendu là encore, moi, tout à fait. Mon âge, ça commence tranquillement. Là,
mais tu vas voir que c'est perturbant, pour vrai.
Parce que là, tu te demandes, moi, quand tu sais.
Je suis normal.
Ben, c'est ça.
Puis là, puis tu sais, moi, j'ai recommencé ma vie à zéro cette année aussi. Fait que là, tu te dis, OK, faut-tu que je me presse? Faut-tu, tu sais? C'est drôle de se retrouver
faut
un peu là-dedans.
Faut
là.
Pas se presser.
Non, évidemment, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un drôle de. Fait que sinon, ça a été un super beau week-end. Un week-end, encore une fois, rempli de beaux événements.
Good.
Max, c'est la semaine de prévention du suicide.
Oui.
Je serais complètement malhonnête de dire que c'était prévu, là. Ça fait vraiment juste bien. C'est un drôle de hasard, le sujet qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. J'ai booké Mélanie en janvier à la suite d'une publication qu'elle a fait. Mélanie Bédard, ancienne policière. Une publication qui traite justement de santé mentale parce qu'elle a fini par quitter la police à cause justement d'une accumulation puis de la santé mentale qui a écopé, en fait, carrément. Mélanie qui a choisi d'entrer dans la police en 1999, mais qui est diamétralement opposé à ce qu'elle fait maintenant, puis on pourra en jaser évidemment aussi. Mélanie, bon matin.
Bon matin.
Tu as décidé de quitter en 2020 le métier de policière, puis j'ai comme envie, avant qu'on pitch là, toutes nos questions puis qu'on revire ton histoire à l'envers, de te laisser justement raconter ton parcours. Ta publication m'a excessivement touchée. Mm-hmm. Une publication qui était très crue, très froide, très vraie, en fait. Je pense que c'est ce qui choque. Puis j'avais vraiment envie qu'on puisse amener ça en onde parce que je pense qu'on ne connaît pas ce pan-là du métier.
Absolument.
On entend parler qu'il y a des chocs post-traumatiques, que vous voyez des affaires épouvantables, mais dans notre tête, vous êtes faites pour ça. Dans notre tête, vous êtes formés pour ça, vous êtes accompagnés pour ça. Puis on réalise que c'est peut-être pas tant le cas que ça.
Effectivement. Puis le but de ma publication, c'était de sensibiliser le public en général sur le côté caché du travail policier, ce dont on ne parle pas vraiment. C'est loin de ce qu'on voit à la télé. Là. C'est beaucoup plus cru, justement, et dégueulasse, je dirais, bien souvent. Mais c'était aussi pour toucher mes collègues, ex-collègues et tous ceux qui peuvent être touchés par le stress post-traumatique, pour qu'ils reconnaissent les symptômes, parce qu'on peut avoir les symptômes sans savoir que c'est ça, sans en être sensibilisé. Et surtout, d'en parler, d'aller chercher de l'aide, parce qu'on se sent seul. Avec la culture du milieu, on n'ose pas en parler, parce qu'il y a, dans le temps, la fausse croyance, il faut être fait fort pour être dans la police. Donc, ça fait qu'on n'a pas le goût d'en parler parce qu'on ne veut pas être perçu faible.
As-tu l'impression que le fait d'être une femme dans la police ajoutait comme une couche de crémage au fait qu'il fallait que tu sois donc bien faite forte?
Bien, je dirais au début, j'ai pas été la première au service de police, et ni la première au Québec, là, mais oui, j'avais l'impression que j'avais des preuves à faire. J'étais dans une équipe où est-ce que, finalement, à force d'intervention, on m'a qualifiée comme une « boys », ce qui était un compliment, c'est qu'on peut compter sur elle, elle est là comme une « boys », tu sais. Fait que oui, j'avais mes preuves à faire et je les ai faites. J'ai eu une super belle carrière, mais je ne m'attendais pas à souffrir de cette façon-là.
Mais c'est ça, on parle souvent des dangers physiques, on dirait, de ce métier-là, mais très peu du niveau santé mentale. À quel moment t'as pris conscience, je veux dire, à quel moment t'as compris que le vrai danger, il était peut-être plus au niveau mental, justement, que physique, là?
J'en ai pris conscience quand j'ai frappé le mur. J'avais quelques petits symptômes avant, des flashbacks, des images de ce que j'avais vu, des images troublantes, mais c'était gérable d'une certaine façon. Bon, OK, c'est une image, on swipe. Comme si c'était...
C'est en quelle année, ça, ce moment-là où tu as frappé le mur, juste pour nous situer? Parce que tu es rentrée en 99, tu as quitté en 2020. Le moment où tu réalises?
Bien, je dirais en 2020, parce que
okay.
En 2019, je quitte en dépression. La nature du travail que je faisais à l'époque, je travaillais avec mon chien de soutien émotionnel, Kanak, pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Donc, ça faisait 2 ans et demi que j'étais constamment dans la grosse détresse et souffrance humaine. Donc, ça m'a amenée à faire une dépression. J'étais allée chercher de l'aide. J'étais mieux, mais je remarquais quand je voyais un auto de police sur la route que je croisais ou quand je passais à côté du poste de police, des symptômes. Je commençais à faire hyperventiler, le cœur battait. J'avais vraiment des symptômes. Et là, quand est venu le temps de penser à retourner au travail, on a fait de la désensibilisation, c'est-à-dire, ben, va dans le stationnement 5 minutes, attends que les symptômes baissent avant de quitter. Et c'est là que je me suis rendu compte, OK, c'est pas juste une dépression, j'ai d'autres choses. Et je savais aussi qu'en retournant au service de police, dans les mêmes conditions, probablement je retournerais malade parce qu'on ne peut pas guérir d'un endroit qui nous a rendu malade. Mmh. Donc, j'avais proposé à ma direction différentes solutions pour mieux, je veux dire entre guillemets, survivre à ce travail-là. Et ça m'a été refusé, l'accommodement raisonnable, si on peut dire. Et c'est vraiment là, la psychiatre qui me suivait à l'époque, qui m'a dit, c'est comme si ton cerveau savait que retourner au travail, tu retournais à l'abattoir. Donc, il s'est arrangé pour que tu ne puisses plus y retourner, d'une façon de me protéger.
Dans ton cas, ça semble être beaucoup d'accumulation qui a mené à cette épuisement-là. As-tu l'impression que c'est souvent ça? T'sais, on a des fois l'impression que ça va être un événement en particulier qui va venir affecter beaucoup un policier, par exemple. Mm-hmm. Mais pour beaucoup, ça doit être justement juste l'accumulation d'être dans, je vais appeler ça, ce climat-là tout le temps pendant des années et des années.
Mm-hmm. Ben, je peux pas parler pour les autres, mais effectivement, je pense qu'il peut y avoir seulement un événement où tu vas souffrir de troubles de stress post-traumatique. Pour moi, ça a été l'accumulation. Et il y a le dernier événement où justement j'ai couvert un suicide qui m'a amené beaucoup d'émotions, puis ça a été le début de la fin de ma carrière. Je pense que c'est là que j'ai vu que ça allait plus, j'étais plus capable d'en prendre.
Que ça fonctionnerait pas avec cette scène-là. C'est quoi qui est le pire? C'est une drôle de question, puis tu m'arrêtes en passant si jamais il y a quelque chose, là, je tiens à te le dire, Mélanie, parce que je me souviens que l'année passée, on a reçu une travailleuse sociale en milieu d'urgence, mm-hmm. puis elle nous a bien averti que le pire avec les gens qui travaillaient dans ce domaine-là, c'était de leur demander, décris-nous cette scène-là, moi, tu sais, parle-nous justement de ce que crée le choc post-traumatique. Mais le pire, est-ce que c'est de parler aux familles ou de vivre la scène, peu importe le type de scène, accident? Parce que c'est des images qui sont quand même froides, là, qui sont crues. Là.
Moi, je suis un livre ouvert. Hein. Je peux répondre à toutes tes questions. C'est est-ce que tes auditeurs sont prêts à entendre ça? Là est la question.
Je comprends. Ben, regarde, vous avez l'avertissement si jamais. Là.
les deux, c'est très dur. Annoncer le décès à une famille, c'est très dur émotionnellement. On va avoir toutes sortes de réactions. Ça fait que c'est lourd. Mais répondre à un appel où ce que le gars s'est tiré dans la tête, puis tu veux-tu j'aille là? Ouais.
Oh, ben écoute, je te laisse aller. Là. Les auditeurs sont avertis. On est là aussi pour voir l'envers du métier. Fait que je te laisse aller.
C'est parce que c'est ça, on ne voit pas à télé. Tu sais, quand ils vont mettre une personne morte, là, un acteur qui fait le mort, là, et ça va être un beau mort. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui a la cervelle éclatée, puis il faut que tu ailles l'identifier, puis son portefeuille est sur lui, puis qu'il a plus la tête, puis que tu marches dans la cervelle. Tu vois, déjà, là, je t'émotive, puis c'est correct, là, je vais gérer ça après. Là. C'est dégueulasse, puis ça marque. Puis après, il faut que tu ailles dire ça à la famille, puis là, ils te posent des questions, fait que tu sais pas que, tu sais, tu veux pas tout leur dire non plus.
Non, c'est ça,
protéger,
comment tu filtres. Mm-hmm. Oui, exact. Et vous n'êtes pas accompagné, tu sais, tu me partages ça, puis c'est vrai que ça rentre dedans. Puis je me dis, il n'y a pas un soutien qui est là constamment pour vous aider, justement, dans ce type d'épreuve-là?
À Sherbrooke, enfin, maintenant, oui. Justement, mon conjoint fait partie du groupe GPS, un groupe de police soutien. Et je sais que les enquêteurs qui s'occupent des dossiers d'agression sexuelle sont obligés 2 fois par année de voir un psychologue payé par le service. Fait que oui, enfin, maintenant, il y a plus de soutien, mais il n'y aura jamais assez. Hein. C'est toujours...
C'est à recommencer,
c'est
finalement.
Toujours à recommencer. Puis il y a la culture du milieu aussi. Encore, c'est important, je veux vraiment répéter. Parce qu'on nous... Moi, quand je suis rentrée dans la police, on disait « faut être fait fort dans la police, faut être fait fort ». Fait que quand tu sens que tu es ébranlé par une situation... Et que là, tu te sens faible de par cette fausse croyance-là. Tu n'as pas envie d'en parler. Mmh. Et donc, tu restes seule avec ça. Tu sens que t'es le seul à vivre. Parce que tout le monde n'en parle pas. Fait qu'on pense tous qu'on est seul.
Tu réduis ce que tu ressens ou ce que tu as vu. Ouais.
On refoule, on minimise. Et puis, ben vient l'accumulation. Et puis c'est ça qui m'a amené aussi à faire cette publication-là. C'est qu'il y a eu plusieurs suicides de policiers dernièrement. Mmh. Puis... Ça vient me chercher. Puis on n'en parle pas à notre famille non plus. Souvent, là, mon conjoint est policier, fait que des fois, on peut en parler, mais on veut protéger notre famille.
Tu veux pas ramener ça à la maison.
Ben non, puis on veut pas leur nommer les images qu'on a vues et expliquer pourquoi qu'on se sent comme ça, puis qu'on est en retrait ou on s'isole.
Mm-hmm. As-tu quand même vu, puis tu sais, oui, dans les programmes d'aide dans les dernières années, tu l'as dit, ça a enfin fini par arriver. Mais dans la culture, as-tu vu quand même un certain degré d'amélioration entre tes débuts et le moment où tu as quitté, où tu as l'impression que c'est... T'sais, on le dit souvent, dans ben des milieux, une culture, c'est dur à changer, puis c'est tough. Pis ça... As-tu quand même vu un début de changement dans la culture?
Je l'entends parler par mon conjoint. Moi, quand j'ai quitté en 2020...
C'est plus récent que ça.
C'est ça. Je voyais pas encore la direction. C'était la vieille mentalité de fait fort, un ébranlable en tout temps. Fait que ce que mon conjoint me rapporte, c'est que oui, les jeunes en parlent plus, fort heureusement.
De ce que je comprends, c'est même un peu enseigné maintenant, là, dans le sens où je crois comprendre que votre métier a beaucoup, beaucoup changé aussi, dans le sens où on s'imaginait les policiers dans le temps, c'était pas mal plus physique, c'était pas mal plus, puis là, il y a énormément de santé mentale à gérer sur le terrain. Fait que vous êtes quasiment, en plus d'être policier, des travailleurs sociaux, puis des vous faites quasiment la palle des métiers au complet. Mais c'est un peu la question que je voulais te poser, tu sais. Tu me parlais qu'on avait, c'est jusqu'à 600 événements potentiellement traumatiques dans une carrière qu'un policier peut vivre, comparé à quoi, 3 ou 4 peut-être dans une vie humaine régulière. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Parce que maintenant, on parle de plus en plus de santé mentale. C'est moins tabou. Quoiqu'à l'époque, ça l'était pas mal plus.
Vraiment. Non, on est préparé pour intervenir, comment protéger une scène, comment recueillir la preuve. On ne sait pas comment notre cerveau va réagir. Fait que oui, on est préparé en situation d'urgence. On fait des simulations, comment intervenir. Donc, mais pour préparer le cerveau, comment il va réagir à la mort d'une personne, sentiment d'impuissance, au traumatisme, je pense pas que ça se prépare. On peut, l'important, c'est bien prendre soin de soi après chaque intervention qui peut venir nous impacter, nous troubler, d'aller en parler à des gens compétents. Mm. Prendre soin de soi si on a besoin de temps. Moi, c'était par le sport que ça me faisait du bien. Il y en a que ça va être la méditation, le spa ou peu importe, là, en autant que ça reste sain. Mais à chaque intervention, moi, je dirais de prendre soin de soi, d'aller en parler, ne pas accumuler ça. Mais il y a le cours de stress policier en technique policière maintenant. Fait que oui, on parle de santé mentale, enfin. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu...
Ça reste de la théorie.
C'est
là.
Ça.
Puis t'avais-tu une question, Max?
Ben, je
t'ai vu hocher de la tête. Ouais, là. Ben, moi, je me partais pour un long dialogue, mais je vais te laisser.
Tu parles de prendre soin de soi. Dans les dernières années, j'imagine que tu as été en mesure de le faire, de prendre soin de toi, Mélanie. Est-ce que tu serais capable de retourner dans ce milieu-là ou pour toi, ça t'a tellement rendu malade que tu pourrais pas, même après avoir pris soin de toi une couple d'années?
Non.
Ça te manque pas?
Ah non, ça m'écœure même. Mon conjoint me parle presque plus de ses interventions. Puis justement, hier, on regardait une télésérie, Prison Break, et il faisait l'allusion qu'un prisonnier allait agresser un jeune prisonnier. Et j'ai eu des symptômes, je me suis mis à roter. Qui était un de mes symptômes, là, roter pendant des heures.
Oh, ouais, hein?
C'est dégueulasse, c'est comme un gars de bar, là. Fait que juste voir ça, l'illusion que le jeune allait se faire agresser, ça a été un déclencheur. Je passe devant le poste de police, puis j'ai comme vraiment... C'est le dégoût. C'est une émotion très, très forte, le dégoût, tu sais, qui veut dire « pousse-toi de là, là ».
Je m'en allais un peu en même place que Max, finalement. Tu sais, moi, ma question, c'est on s'habitue pas à ces images-là, puis je l'explique. Tu parles de Prison Break, mais il y a tellement de séries aujourd'hui, tellement de vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Malheureusement, quand Charlie Kirk est décédé aux États-Unis, on voyait les images se promener partout, des enfants qui avaient accès à ça, c'était épouvantable. On dirait qu'on est rendu désensibilisé à la violence. Puis la violence, je veux dire, des fois des bras manquants, des affaires dégueulasses qu'on voit comme être humain au quotidien. Vous le côtoyez, mais de là ma question. Il n'y a pas un moment où il y a un filtre qui s'installe de...
Non, bon, ben, une autre journée. T'sais, je peux me tromper, mais on peut être désensibilisé. Ça peut comme normaliser la violence, mais le cerveau enregistre tout. Puis le cerveau, lui, son rôle, c'est de nous garder en survie, nous protéger. Donc, je pense qu'avec... encore, faudrait faire venir un spécialiste, là. Mais le cerveau, il est là pour nous protéger. Fait que peut-être qu'un jour, on va faire de l'hypervigilance. Mais, parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Fait que même si on sait, comme Prison Break, on sait que le petit garçon, il est correct, là, l'acteur, mais ils font allusion à ça, fait que... Le cerveau se fait des images.
Je le ressens quand même.
Oh oui.
Quand est-ce qu'on réalise qu'on a atteint sa limite? Puis là, on parle de toi parce que tu étais dans le corps policier, mais je veux dire, généralement, c'est la semaine de prévention du suicide. On a du monde qui nous écoute, qui font toutes sortes de métiers, qui sont dans le milieu de la santé, qui voient des affaires épouvantables aussi. Oui. T'as des gens qui sont sur la route. Qui, comment on réalise qu'on a atteint sa limite puis que là, au pire, il faut peut-être tirer à plug pour quelques mois, là, prendre le temps de se recentrer?
Ben, je dirais quand on se reconnaît plus, mais là, encore là, il est trop tard. C'est quand on commence à avoir des symptômes. De là, l'importance d'être bien en contact avec son corps, de ne pas être déconnecté parce que...
Ces symptômes-là, Mélanie? Parce qu'on dirait que c'est tellement facile à dire. J'ai l'impression que tes symptômes ne seraient peut-être pas les miens et ne seraient peut-être pas ceux de Max non plus.
Oui. Oui, c'est différent. T'sais, aussitôt qu'on ne se reconnaît plus, qu'il y a de la nouveauté, moi, c'était des tensions dans le dos, c'était de l'insomnie, l'irritabilité, l'hypervigilance, les cauchemars. Puis, tu sais, c'est pas juste les gens en milieu d'urgence aussi. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Là. Tout le monde est sujet à ça, là. Mm.
As-tu reçu bien des messages de policiers, peut-être de gens justement de complètement d'autres milieux, avec ta publication dont Audrey parlait en ouverture?
J'ai au moins une centaine de messages privés.
De policiers?
Policiers, pompiers, infirmières, services correctionnels, qui, il y en a pour qui ils disent « je viens de réaliser que je fais peut-être ça, je ne savais pas que ces symptômes-là c'était relié à ça ». Il y en a beaucoup qui m'ont dit « je suis là, mais je veux pas quitter mon travail, qu'est-ce que les autres vont dire ?» Ça, ça vient me chercher. Faut-tu arrêter de juger les autres, Colin?
Ouais.
Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que mes patrons vont penser? Que je suis faible, puis tout ça. Fait que beaucoup d'orgueil là-dedans aussi, là, mais... Fait que pour répondre à ta question, aussitôt qu'on a des symptômes qui, pour moi, c'est des drapeaux jaunes qui se lèvent, il faut l'adresser tout de suite pour pas que ça devienne des drapeaux rouges puis qu'on frappe notre mur.
Tout ce qui est crise de panique. Tu parlais d'hypervigilance tantôt, ça m'a parlé. Ça, des fois, on le remarque quand on se met à s'inquiéter de tout autour puis être super... physiquement, ça va se ressentir aussi. Il y a des fois des gens, de façon beaucoup plus légère, mais des gens qui fileront pas en novembre puis qui vont se dire « Ah non, c'est juste passager, ça doit être une petite dépression saisonnière, le manque de lumière. » Puis, tu sais, il y a une médecin avec qui on parlait en ondes qui nous disait tout le temps, une psychiatre qui nous disait, quand ça dépasse trois semaines, là, où tu files pas, t'es pas bien, t'as de la misère à reprendre le dessus, il y en a comme pas de lumière, là, ça s'en vient difficile, puis tu roules dans ta chenoute, là. Mais c'est peut-être là qu'il faut que tu commences à tendre des perches puis à essayer d'avoir une aide extérieure pour peut-être t'en sortir. Puis là, malheureusement, dis-moi si je me trompe, mais je pense que vous avez quand même une aide possible due au métier, là. Vous êtes suivi, j'imagine, quand tu quittes? Parce que c'est dur pour la population de trouver un psy, là.
Absolument, absolument. Ben, y a l'aide aux employés, mais encore là, avec tout le respect qu'on leur doit, je trouvais que c'est... Ils connaissaient pas le milieu policier, la personne que j'ai vue. Donc, c'était pas tant aidant. Fait qu'il faut vraiment des gens qui connaissent aussi notre réalité, parce qu'elle n'est pas connue. On vous parle pas de tout ce qu'on voit puis tout ce qu'on ressent. On fait juste voir dans les médias, bon, et de donner des tickets, puis on fait des manifestations. Puis quand que ça vire mal, tu sais... Puis c'est dur, ça aussi, l'opinion du public, alors qu'ils savent tellement, mais tellement pas qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit. Là.
C'était quoi la différence entre... Parce que dans ta publication, à un moment donné, tu nommes le fait que tu es devenue sergente détective puis tu pensais que peut-être que ça allait changer, là, que ça allait aider ou que ça allait t'amener une autre vision du métier. Qu'est-ce qui fait que ça a été finalement pas si positif que ça? Parce que tu dis que l'impact a été encore plus lourd. Là.
Ben, je suis allée sergent détective pour la famille. C'était plus facile pour l'horaire.
L'horaire et tout.
Mais oui, ce que j'expliquais, c'est quand tu es sa patrouille et tu arrives face à un décès, si c'est un mort évident, on gèle la place, comme on dit, on se retire, on protège la scène jusqu'à temps que les enquêteurs viennent faire la scène. Mmh. Fait que oui, j'avais des images, mais j'avais pas à travailler dedans. Mais quand tu arrives comme enquêteur pour faire l'analyse, mais quelle pourrait être la cause du décès? Est-ce que c'est volontaire, accidentel? Est-ce que c'est un meurtre, un décès naturel? Bien, il faut recueillir la preuve. Et des fois, le décès, ça fait des mois. Ça peut faire des mois qu'il est là, là. Fait qu'il...
L'odeur,
les verres, le petit jus. Tu sais, je suis crue, là, je sais, mais je veux vraiment que les gens soient sensibilisés. Puis qui nous voient différemment, les policiers, les policières. Là. Donc, comme sergent détective, tu es vraiment dedans pendant des heures avec l'odeur. Puis après, quand tu as recueilli la preuve, bien là, tu fais venir la morgue. Puis je sais pas comment les gars, ils font, les filles, là, ramasser, puis mettre ça dans les sacs. Fait que c'est des heures à patauger, alors que... Puis je veux pas minimiser non plus, là, ça peut affecter un patrouilleur qui vient, là, mais c'est moins... En tout cas...
C'est un step supplémentaire pour toi de... En fait, c'est que ça enlève la pellicule, là. T'sais, dans le sens que quand t'es dedans puis t'es obligé de le côtoyer directement, on est complètement ailleurs. Aujourd'hui, Mélanie, j'ai envie de te demander comment tu vas?
Très, très bien, vraiment. Oui. T'sais, j'ai encore des fois des petits déclencheurs, comme je te disais, là, puis hier, là, mais ça se gère pas mal mieux, c'est pas mal moins intense. Puis je suis très bien, j'ai su me reconstruire... puis faire un travail que j'adore.
Puis trouves-tu ça difficile d'avoir un conjoint qui fait encore ce métier-là, qui toi, t'as un peu jeté à terre?
Ben, je pense que c'est lui qui trouve ça difficile, qui peut moins m'en parler. Fait qu'il y a une personne moins confidente de moins à en parler. Mmh. Il va me parler un peu des choses drôles des fois qui arrivent, ou légers, là, mais il m'en parle plus. Ben, des fois, je sais pas. Lui aussi, tu sais, il a vécu, il est allé sur une intervention, une usine avait explosé, puis il a vu des choses pas belles. Mais pour l'instant, il est correct. Mm. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, il va avoir une goutte qui va faire déborder le vase, puis qu'il va déclencher, il va avoir des symptômes, mais pour l'instant, il est correct.
Es-tu attentive à lui?
Bien sûr, bien sûr.
En terminant, Mélanie, parle-nous de ce que tu fais maintenant pour aider, j'ai envie de dire, les autres en... partant peut-être de ce que toi, tu as appris avec ton cheminement?
Bien, je suis coach en développement personnel pour les... généralement les femmes, mais j'accueille bien les hommes. J'aime les hommes aussi. Mais pour les femmes qui manquent d'estime, manquent de confiance, qui sont sous l'emprise de leur auto-saboteur, de leur peur, qui ont des croyances limitantes, qui les empêchent de s'épanouir, de vivre leurs rêves. Mais aussi à travers ça, j'ai souvent des policières aussi qui, parce que j'ai marché le terrain, je connais, ben je les aide à justement à retrouver leur énergie, à retrouver est-ce que c'est ça qu'elles veulent continuer de faire comme métier, leur redonner espoir que oui, il y a d'autres choses. Il y a de la belle vie en dehors de la police, parce que quand on est vraiment dans ce pot, c'est comme si on marine dans de la mer et avec le temps, on devient amer. C'est un gros cornichon. Si je peux dire, mais on arrive tous des petits cornichons sucrés, puis on est passionné, puis on est bien intentionné, puis avec le temps, à force de mariner dans le négatif, bien, on devient amer, on devient désillusionné, aigri, puis c'est ça. Fait que je les aide à se retrouver, bien sûr.
Fait que ces gens-là qui peut-être se sentent interpellés par ce dont on discute en ce moment, si vous êtes justement dans les métiers d'urgence, vous avez besoin d'une oreille, Mélanie Bédard, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
Oui, Mélanie Bédard, j'aime me présenter comme une jardinière de pensée, parce que tout part de nos pensées. Là, donc,
écoute, je te remercie d'avoir été aussi transparente, en fait, dans toute cette entrevue, dans ces 25 dernières minutes-là. Ça n'a pas dû être particulièrement facile. Si moi, j'ai eu de la misère à recevoir certaines choses, définitivement, de les partager, ça n'a pas dû être facile. Puis j'ai envie, Max, avant de te quitter, de vous dire si jamais vous avez envie d'avoir un peu de ces dessous-là du métier policier, tu sais, de comprendre. Moi, le moment où je suis devenue un peu plus sensible, on dirait, au corps policier, c'est après avoir lu les livres Cœur policier. Je ne sais pas si tu les connais, là, j'en ai déjà parlé en nombre, mais je pense que c'est trois tomes maintenant. C'est une journaliste qui s'est mise sur ces livres-là, son conjoint est policier, puis elle a décidé de récolter 30 témoignages par livre de l'histoire, le moment le plus marquant d'une carrière. Des fois, c'est des affaires horribles. Des fois, c'est des affaires super touchantes. C'est des moments super beaux. Ça va dans tous les sens, mais ça amène comme un côté très, très, très humain, puis plus près, si on veut, du métier, comparé à ce que nous, on voit tous les jours, puis ce qu'on chiale, là, tu sais. Fait que si jamais ça vous intéresse, moi, c'est vraiment un livre qui m'avait fasciné, puis c'est facile à lire parce que c'est 30 petites histoires. Fait que je vous ai lu une par soir, au pire, là, t'es jamais en reste. Là, non, ça se fait vraiment bien. Fait que bref, ce serait mon petit conseil.
Mélanie Bédard, merci beaucoup d'être passée ce matin. Audrey, merci. On t'écoute tantôt dans le retour avec Gravel dès 14h.
Yes.
Dans les prochaines minutes spéciales, on en jase avant que l'équipe d'On en jase arrive à midi parce que, bon, comme d'habitude, Pascal CV vient faire son tour en fin d'émission. Mais je reçois aussi là, quelques minutes Jeff Fortin qui sera à l'animation ce soir d'un podcast hors série de Boulevard 102.1 dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Fait qu'il va venir nous présenter là, un petit peu de quoi il va nous parler ce soir dans le podcast. On fait aussi un petit tour des nouvelles puis on jase de sport. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102.1 et 11h27. Le Point de Max.